Bonjour, bel après-midi en ce samedi 15 juin 2013. Bienvenue à ce groupe de partage autour des enseignements non-duels tels qu'un cours en miracle et dans l'esprit de celui-ci. Et j'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous ceux, à nombreux frères et sœurs qui nous écoutent à distance au moyen des enregistrements audio du site Être Plus. Voilà, on va commencer avec un petit son de cloche, simplement pour démarrer par une présence tous ensemble. Voilà, je me réjouis de vous retrouver avec, après une petite interruption des groupes, aussi bien ceux qui sont ici dans cette pièce, autour de cette table, que ceux qui nous écoutent à distance, que je salue chaleureusement au passage. Voilà, je vais exposer les directions, je vais introduire le groupe et puis ensuite nous pourrons nous sentir libres de partager toute expérience dans le but qu'elle soit éclairée par la non-dualité. Quelle que soit l'expérience, qu'elle puisse être très basique, qu'elle parle de conflits, difficultés ou choses agréable, extatique, voilà, tout ça a sa place en tant que témoignage de qui nous sommes vraiment, de notre nature profonde. Donc cet après-midi, il n'y a pas de boss, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de déroulé. Moi, je suis simplement celui qui crée le cadre, qui organise physiquement la réunion. C'est-à-dire la table, les chaises, les yogiti et l'introduction. Et tout le reste est laissé à notre guidance au fur et à mesure qu'elle vient. Donc nous pouvons parler, nous pouvons être guidés à rester silencieux, partager un silence ensemble, ou partager quoi que ce soit d'autre qui survient dans nos vies et qui mérite d'être éclairé. Voilà, avant d'aller plus loin, je vais citer 5 phrases qui sont très importantes pour moi, qui sont pour moi très puissantes, qui apparaissent à la page 30 d'un cours en miracle, et qui disent ceci. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire, ni de ce que je vais faire. Car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis heureux d'être là où il souhaite que je sois, sachant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Voilà, avec ces phrases, je peux lâcher tout désir de contrôler la réunion ou ce que je vais dire. Et puis plutôt laisser l'inspiration ou la guidance diriger les choses, me diriger. Alors je vais donner quelques phrases qui situent un petit peu le contexte et qui aussi sous forme de questions parfois peuvent nous donner des directions de partage. Alors on peut ou non les aborder. Mais ça tourne autour de la non-dualité. Alors, je me sens guidé à citer 3 phrases de la préface d'un cours en miracle pour commencer, qui est une sorte de résumé très synthétique de tout l'ouvrage, et qui dit « Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe, en cela réside la paix de Dieu ». Voilà, rien de réel ne peut être menacé, ça veut dire que tout ce qui est menaçable, changeable, vulnérable, n'est pas réel, c'est-à-dire n'existe pas réellement. Alors, nous le percevons, mais nous faisons la différence entre percevoir quelque chose et le fait que quelque chose existe. Dans notre perception, cela existe, mais en réalité, ça n'existe pas. Et rien d'irréel n'existe. Ça veut dire que tout ce qui est menaçable n'existe pas réellement. Tout ce qui est pas réel n'existe pas, parce que tout ce qui est réel est aussi éternel. Hein. Alors, qu'est-ce qui est réel? Dieu, dans le sens large du terme, et pas théologique, et pas non plus religieux. Dieu, la source, l'univers, le tout, l'intelligence absolue, peu importe le mot, mais c'est un mot qui est censé tout englober, et nous y compris. C'est pour ça qu'on dit souvent, dans ces introductions et dans ces groupes, on dit cette phrase très courte, Dieu est. Dieu est, en deux mots, c'est tout ce qu'il y a à dire, parce que ça couvre toute la réalité. Dieu est tout ce qui est. Il n'y a pas autre chose. Alors, bien sûr, nous percevons autre chose, nous percevons que nous sommes séparés. Et c'est le but de ces groupes, hein, c'est de partir de cette perception séparée qui est considérée comme illusoire à une perception d'unité, hein, qui est contenue dans Dieu est. Alors, Dieu est tout ce qui est, ça peut aussi avoir comme conséquence que si Dieu est tout ce qui est, Dieu ne peut pas s'opposer à quoi que ce soit, parce qu'il s'opposerait à lui-même, puisqu'il est tout. Et donc, si Dieu ne s'oppose à rien, encore une fois par conséquence, Dieu accueille tout, c'est-à-dire Dieu ne juge rien. Quoi qu'il se passe, ça fait partie de Dieu, donc Dieu l'accueille. Y compris nos expériences, qu'elles soient souffrantes, malheureuses, difficiles, ou extatique, hein, voilà, c'est complètement accueilli par Dieu. Qu'est-ce qui est éternel et inchangeable également? L'amour, hein, on dit Dieu est ou l'amour est, qui sont souvent des choses très très similaires. Et le but de Dieu, c'est d'étendre l'amour, d'étendre ce qui est réel, c'est-à-dire l'amour. Voilà, en très peu de mots. Quelques concepts de non-dualité. Et puis en quelques questions, les sujets, s'ils nous inspirent, qui pourront être abordés. Comment mieux percevoir notre nature véritable? Comment pacifier notre vie avec le véritable pardon? Quel est le sens du mot Dieu dans la non-dualité? Comment puis-je choisir d'être heureux plutôt que d'avoir raison? Comment identifier l'ego comme la croyance que je suis séparé des autres? Quel est le pouvoir divin de nos intentions? Comment ce que je vois du monde est un reflet de mes pensées uniquement? Comment réalité et illusion sont les deux niveaux de perception possibles? Comment être dans ce monde de dualité sans en être? À quoi sert le scénario de nos vies sur Terre? Comment la vraie guérison est de l'esprit? Quelle est la nature du voile de séparation? Qu'est-ce que le plan divin pour l'humanité? Comment apprivoiser l'ego pour le remettre à notre service? Et comment le monde subtil est à nos côtés pour nous fournir de l'aide en permanence? Voilà, des questions un peu en vrac et qui ne sont pas exhaustives du tout. Des questions que nous pouvons nous poser partant de ce que nous vivons, ce que nous percevons dans ce monde, et avec parfois l'intuition qu'il doit bien y avoir autre chose que ces vies où on est, on souffre, on a du plaisir, on meurt. À quoi ça sert tout ça? À quoi sert la dualité? Pourquoi est la souffrance? Et toutes les choses qui partent d'un monde duels et nous font cheminer progressivement vers un monde d'unité, hein, où peu à peu, il n'y a plus d'adversaires en face, il n'y a plus de conflits, il n'y a plus de jugements, il n'y a que des frères, il n'y a que des sœurs, il n'y a que un monde où les relations sont des relations d'amour. Comment cheminer d'une vision de séparation à une vision d'unité? C'est le thème de ces groupes, hein, qui ont commencé en mars 2010 ici, mais qui étaient déjà dans d'autres lieux, en particulier chez Sylvain et d'autres, déjà en cours, hein, à cette époque. Voilà, Un cours en miracle, si je peux en dire quelques mots. C'est un gros livre de 1300 pages qui est ici, qui est en fait divisé en trois livres, mais qui ont été reliés ensemble pour ne pas qu'ils puissent être séparés. Donc ça se compose du texte, qui est 700 pages environ de théorie sur la non-dualité. C'est un livre canalisé, hein, qui a été reçu par une psychologue vers la fin des années 60, et qui entendait des voix dans sa tête, qui était un peu médium, et qui à un moment donné, à la suite de certains événements un peu conflictuels, a commencé à entendre « Ceci est un cours en miracle, s'il te plaît, prends note ». Et tant qu'elle ne prenait pas note, la voix répétait tout le temps la même chose, elle croyait devenir folle. Et finalement, après s'être beaucoup interrogée s'il fallait qu'elle le fasse ou pas, elle l'a fait, et ça a duré 7 ans, sous la forme de plusieurs canalisations séparées par quelques mois, parfois plus, de silence de cette voix. Donc après le texte, il y a le livre d'exercices pour étudiants, qui est 365 leçons pour la vie de tous les jours, une leçon par jour, mais ça peut être aussi sur plusieurs jours pour une même leçon, qui sont destinées à mettre en pratique le texte, la théorie de ce livre, et c'est suivi par un manuel pour enseignants, donc ceux qui choisissent d'être, comme dit le livre, enseignants de Dieu. Voilà, alors c'est dicté par Jésus et c'est nommément dit dedans, hein, c'est pas Yeshua, c'est vraiment Jésus qui a dicté dans la tête de Helen Schuckman ces 1300 pages. Il y a un vocabulaire relativement proche du christianisme, même si le but n'est pas du tout religieux. Mais il était plutôt adapté au public de l'époque, hein, dans les années 70. Et c'est un public de psychologues. Il a été vraiment donné pour ce public à l'origine. Voilà, maintenant il est traduit dans une quarantaine de langues et puis il se diffuse à grande vitesse dans ce monde. Voilà, et puis comme disait Sylvain, il y a une vidéo sur YouTube qui parle de l'histoire de ce livre et puis de comment ça a émergé et comment ça s'est diffusé. Et sur Être Plus, il y a une petite annonce qui reprend les deux premières vidéos et qui s'appelle Nouvelles informations à propos d'un cours en miracle. Donc il y a un petit module de recherche sur Être Plus où vous pourrez retrouver facilement cette vidéo. Voilà, alors bien sûr nous pouvons nous appuyer sur ce livre et ses leçons pour partager, mais il n'y a aucune obligation. Il y a d'autres livres non duels, une partie d'entre eux est en vente dans ce lieu. Et puis un autre qui m'a beaucoup marqué, c'est l'Évangile selon Jésus, toujours canalisé par Paul Ferrini, et qui est beaucoup plus, au niveau du vocabulaire, beaucoup plus actuel. Mais on peut dire c'est le même auteur, hein, dans les deux cas. Voilà, alors je me sens guidé à parler de notre vie humaine, de notre vie dans cette dualité. Puisque apparemment, c'est ce que nous connaissons le mieux, et certains n'ont l'expérience que de ça. Dans ces groupes, nous parlons de notre véritable nature qui est au-delà de cette vie humaine, qui est au-delà du corps aussi, au-delà du mental et au-delà de l'ego, hein, qui est la croyance que je suis séparé de vous, qui est en face de moi ou de ce livre ou de ce corps ou de des objets qui sont là. Alors, il y a dans Un cours en miracle un passage très très beau que j'ai spécialement annoté, qui est très romancé, qui fait partie du chapitre 27 qui s'appelle La guérison du rêve. Le rêve étant ce que nous vivons dans nos vies de tous les jours. C'est comme si nos vies de tous les jours étaient un rêve à l'égal des rêves nocturnes que nous avons. C'est comme si les rêves nocturnes étaient un rêve dans le rêve. Hein. Mais la différence, c'est que le rêve diurne, nous n'en sommes pas conscients et nous ne nous sommes pas encore réveillés de ce rêve-là. C'est aussi pour ça qu'on parle d'éveillé pour les gens qui sortent de cette perception duelle, de cette perception finie du corps. Hein. Alors, le héros du rêve parle de l'instant où nous, en tant qu'être divin, nous avons volontairement choisi de quitter notre nature divine momentanément, en perception, pour aller vivre une expérience humaine. Et c'est pour ça qu'il est particulièrement adéquat pour moi de le citer dans ce groupe qui parle de aller de la non-dualité à la dualité. C'est comme si c'était le chemin du retour. Alors, ce n'est qu'un petit passage, hein, mais c'est celui qui est le plus parlant pour moi. Et il dit ceci, « Dans l'éternité où tout est un, s'est glissée une minuscule et folle idée de laquelle le Fils de Dieu ne s'est pas souvenu de rire. Dans son oubli, la pensée devint une idée sérieuse, est capable à la fois d'accomplissement et d'effet réel. Ensemble, nous pouvons rire des deux et comprendre que le temps ne peut pas faire intrusion dans l'éternité. C'est une blague de penser que le temps puisse venir circonvenir l'éternité, ce qui signifie qu'il n'y a pas de temps. » Voilà, alors je m'arrête là. L'ensemble du chapitre est très beau, hein. Ça parle entre autres le héros du rêve, du fait que c'est moi le héros. Moi, c'est celui qui dit je. C'est-à-dire, je vis tout le temps au milieu d'un monde où je suis l'acteur principal. C'est je. Quoi qu'il se passe, je suis au centre de ce qui se passe. Et c'est ça que le cours appelle le héros du rêve. Comme si j'étais l'acteur de la pièce de théâtre, hein, le héros de cette pièce. Alors, ce qui est important dans ce court passage que j'ai lu, c'est cette minuscule et folle idée, hein, qui s'est glissée dans l'éternité où tout est un. Alors, cette minuscule et folle idée, c'était « Et si nous n'étions pas divins, que se passerait-il ?» Hein. Donc, nous sommes divins, nous sommes des êtres divins, inclus dans la réalité de Dieu. Et à un moment donné, nous avons émis l'hypothèse, comme une blague, comme une façon de rire, de jouer. Que se passerait-il si nous n'étions pas divins? Et parce que nous sommes divins, nous avons utilisé nos pouvoirs divins pour donner à cette idée des aspects réels, hein, et des effets réels et une forme d'accomplissement. Ce qui a donné notre monde, le Big Bang et ce monde-là. Nous avons souhaité, en esprit, en jeu, par jeu, expérimenter un monde où les propriétés divines ne sont pas à l'œuvre. C'est-à-dire un monde qui a des limites, un monde où il y a autre chose que l'amour, un monde où les choses sont changeables, hein, sont vulnérables, ne sont pas éternelles, où il y a du temps, où il y a de l'espace. Donc, parce que nos intentions sont divines, nos intentions ont été honorées et nous avons fabriqué la dualité pour en faire l'expérience. Alors, faut se rappeler que c'est par jeu que nous l'avons fait, donc c'est vraiment dans l'esprit joueur d'un enfant qui dit « Et s'il y avait autre chose que l'amour, comment cela se manifesterait-il » Et voilà, en vérité, comme il n'y a que Dieu et comme l'amour est tout ce qui est et que c'est pas possible de qu'il y ait autre chose, alors nous avons simplement imaginé cette dualité. C'est pour ça qu'on parle du rêve. Nous l'avons imaginé et mais nous lui avons donné quand même des attributs très forts de réalité. Donc c'est comme si nous étions en quelque sorte drogués, dans le sens, je dirais, large du terme, et que nous souhaitions voir autre chose que le monde divin, et donc ça s'est réalisé. Voilà pour, je dirais, la petite idée folle qui dit « Et si autre chose que Dieu pouvait exister ?» Comment nous le vivrions? Voilà. Donc nous ne jugeons pas la dualité, c'est notre souhait, c'est vraiment un jeu, et c'est volontairement que nous nous sommes glissés dedans par jeu. Et en même temps, il s'est passé des choses qui étaient un peu non prévues. Il s'est passé la culpabilité, à propos de « je me suis séparé de Dieu, ouh là là, quelle bêtise j'ai fait ». J'aurais pas dû, comment je fais maintenant pour sortir? Je suis dans un labyrinthe, j'ai perdu la clé, j'ai perdu la voie de sortie. Comme si l'Esprit divin a été voilé en moi et que tout d'un coup j'ai un esprit limité, j'ai un esprit qui est divisé et qui se rappelle plus de la partie divine. Et notre but dans notre existence, dans ce cheminement, c'est de pouvoir progressivement dévoiler l'esprit, dévoiler la partie divine et retrouver la maison, notre maison, que en vérité nous n'avons jamais quittée, puisque nous rêvons. Nous sommes en train d'imaginer des choses en leur donnant un pouvoir de réalité dans nos esprits. Assez puissant. Pourquoi avons-nous voilé notre esprit? Parce que si nous ne l'avions pas fait, la dualité n'aurait pas duré plus qu'une microseconde, puisque nous n'aurions jamais souhaité continuer l'expérience, sachant nos pouvoirs divins. Donc c'était la règle du jeu, c'était d'oublier en même temps pour vraiment plonger dans ce monde et y croire. Parce que ce monde nécessite d'y croire. Si nous n'y croyons pas, en vérité, il disparaît. Il disparaît de notre esprit. Et c'est aussi un des buts que nous avons dans notre vie, c'est de passer de ce monde, changer notre esprit progressivement, petit à petit, au moyen de ces livres, ou avec d'autres moyens, parfois les expériences de la vie, qu'elles soient douloureuses ou pas, pour nous ramener sur le chemin de la vérité. La vérité étant tout ce qui existe, la seule chose, le seul monde réel. Voilà, alors ça fait peut-être beaucoup pour ceux qui découvrent, et en même temps, il y a parfois des épisodes dans la vie ou des intuitions profondes ou des guidances profondes ou des petits miracles qui surviennent qui nous font entrevoir que il y a bien autre chose que le corps, il y a bien autre chose que ce monde, il y a que nos vies servent à quelque chose en dehors de l'aspect matériel et que nous sommes esprits et même si nous ne l'expérimentons pas directement, alors il y a parfois des passages de la vie où nous en avons une intuition très forte. Ces moments-là peuvent parfois être appelés des guidances de l'esprit juste l'esprit en nous qui se rappelle de la vérité et qui parfois fait irruption dans nos vies. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que le reste peut se passer sous forme de témoignages, de questions-réponses. Et puis, il n'y a aucun sujet qui ne soit pas pertinent, hein, si c'est un témoignage, hein, s'il s'agit de partager quelque chose, parce que nous pouvons toujours partir de ce sujet et le reconnecter à la non-dualité ou l'unité. Voilà, j'ai parlé et je laisse la parole.
Il est certain que le fait de dire le monde n'est pas réel, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile de percevoir, de subodorer, de ressentir, y compris pour la grande majorité de ceux qui sont très attirés par la non-dualité, par une recherche d'authenticité, par un approfondissement de l'expression de l'amour dans leur vie, dans notre vie. Tout à l'heure, Avi parlait de croyance. Effectivement, on ne peut pas venir ici sans croyance. Qu'est-ce que c'est qu'une croyance ? C'est quelque chose qui semble être. En fait, ce qui est, cela est. Et ça ne peut pas disparaître à un moment, sinon ça n'est pas. Ce que je viens de dire peut paraître très ésotérique, bizarre, incompréhensible, difficile à saisir. C'est vrai. Il y a une raison. La raison, c'est que on a choisi une expérience. Quand je dis on a choisi, on va dire l'être que nous sommes, nous avons oublié. On va peut-être employer le mot âme, l'âme, notre âme, qui nous sommes vraiment, a choisi une expérience duelle, c'est-à-dire une expérience de perception, de séparation imaginée. Car ce qui existe éternellement ne peut qu'être un. Si quelque chose est séparé, c'est quelque chose est séparé de quelque chose. Et cette autre chose, c'est quoi ? Ça existe ou ça n'existe pas ? Et là, on touche à la dualité. Et si vous laissez votre cœur vous parler, tôt ou tard, progressivement, vous allez voir que vous touchez à l'absurde. Vous allez pouvoir commencer à ressentir que le fait simplement d'être là, d'écouter, d'avoir votre vie humaine, de vous sentir une femme ou un homme, un enfant, quelqu'un d'âgé, quelqu'un qui a de l'argent, qui est reconnu, au contraire, qui n'en a pas, qui n'est pas reconnu, quelqu'un qui a des problèmes, plus ou moins. Vous vous apercevez progressivement que vous dites toujours « je ». Voilà, mon monde, c'est ça, mes croyances, c'est ça. Et les croyances, c'est « je crois que je suis né tel jour, que j'ai un passeport de tel pays, que j'ai tant d'argent, ou contre que j'en ai pas, etc. » Comme ça, avec beaucoup, beaucoup de paramètres. Et ça, je pense que c'est moi, ça. Je pense que je regarde mon corps et puis, voilà, j'ai un corps. Et puis, on me coupe le pied ou j'ai un accident, j'ai plus de pied, pied droit. Je suis toujours là. Puis finalement, je m'aperçois qu'on peut me couper les membres. Il y a un Américain qui pratiquement n'a plus aucun, ses quatre membres coupés avec simplement un petit morceau de pied. Pied droit. Qui vient d'avoir un enfant. Effectivement, ce qui reste, c'est la colonne vertébrale, la tête et toute la colonne, qui est l'axe central du corps. Mais on pense encore être ça. Effectivement, si ça disparaît, il n'y a plus l'expérience physique. Donc, il y a ce qu'on appelle la mort. Voilà, ça c'est nos croyances. Et on ne peut pas être ici sur Terre, les 7 milliards que nous sommes, on ne peut pas venir ici pour jouer ce jeu, supposons, imaginons que vraiment c'est décidé de jouer ce jeu, on ne peut pas venir ici sans avoir cette perception égotique de séparation. Sinon, on ne vient pas, c'est pas possible. Donc la règle du jeu, pour pouvoir faire cette expérience de dualité et vivre ensemble dans un monde duel, un monde de matière physique, ça suppose effectivement une perception où ce qui est perçu n'est pas ce qui perçoit. Tout ce que je peux voir, tout ce que vous voyez, ça semble extérieur à vous. Même votre pied, eh bien, ça semble être vous, on coupe le pied, vous êtes toujours là. On va dire oui, d'accord, puis mais ok, mais le jour où je quitte le corps, c'est-à-dire un accident ou une maladie où on me tue, j'arrête de vivre. Pour la plupart des gens, effectivement, c'est la fin. Mais c'est la fin de quoi? Et là, la réponse, elle est propre à chacun. Il n'y a pas de réponse type. Il y a simplement expérience. Et comme nous sommes ici 7 milliards à avoir cette illusion de vie, dans un corps soit masculin, soit féminin, d'être ce corps masculin ou féminin, eh bien, pratiquement, il y a toujours cette menace de la mort, qui est terrifiante avec la croyance que nous sommes le corps physique, évidemment. On peut imaginer, d'ailleurs, d'une manière tout à fait théorique, et c'est facile, même le monde de l'ego le conçoit tout à fait, on peut imaginer en disant, supposons que j'ai vraiment la croyance qui change, et donc vraiment j'ai la certitude inhérente en moi, profonde, que je ne suis pas ce corps physique. Évidemment, je ris de la mort, m'est égal, puisque je ne suis pas ce corps. Mais qui suis-je? C'est la question. Et cette question-là, elle dépend de nos croyances. Je veux dire, la réponse à cette question dépend de nos croyances. Ah oui, on dit d'accord, mais en attendant, j'ai des croyances. Oui, oui, absolument. Nous avons tous des croyances, sinon nous ne serions pas ici. Pour jouer ce jeu. Mais en attendant, nous sommes là. Et on va dire que c'est notre seul capital. Donc même l'ego, c'est un capital, c'est-à-dire que je dis je. Même si je me perçois le corps physique, ben je dis je. Je me réveille le matin, c'est toujours moi que je vois. Je vois Sylvain, je vois pas Christine ou Frédéric ou je ne sais qui. Non, c'est Sylvain, toujours le même. Et pour vous, c'est pareil, évidemment. Donc vous êtes toujours face à un je, J-E, que vous imaginez être vous. Et donc, vous imaginez que c'est le corps. Nous imaginons que c'est le corps. On dit, tiens, il y a la naissance d'un bébé, il s'appelle Jean-Louis, il fait 3 kg 650, et voilà, il est né le 15 janvier, telle date, etc. Et tout ça, ça fonctionne comme ça, et ça paraît naturel. Ça paraît la réalité. C'est tellement bien fait que ça paraît vraiment la seule réalité. Il n'y a aucun problème avec ça, mais aucun. C'est un jeu, et puis c'est la réalité, alors ben allons-y, jouons le jeu. Simplement, il commence à y avoir des cris de douleur. Je me souviens, j'ai fait il y a plus de 20 ans une journée de ou un, week-end, de rebirth. Et là, on respire, et puis je me suis imaginé naître. C'est la seule fois où j'ai fait cette expérience. C'était très subtil, pas très marqué. Et donc, je me suis laissé aller à m'imaginer, je me suis vu comme... j'allais venir m'incarner, j'étais comme dans un sarcophage, et voilà que je descendais, et j'arrivais ici sur cette terre. Et puis voilà, j'étais tout à fait en paix. Mais dans la salle où j'étais, là où je faisais mon rebirth, on était un certain nombre, on était au moins une centaine, j'ai commencé à entendre deux ou trois personnes qui avaient des émotions, donc qui pleuraient. Et donc j'ai commencé à entendre une souffrance. Et je me suis dit, ah ça commence, ça y est, là j'y suis. Ça commence la souffrance. Et c'est ça. C'est pour ça qu'on s'en occupe, c'est parce qu'il y a souffrance. Sinon, s'il y a amusement, s'il y a joie, c'est très bien, on joue le jeu. Simplement, on est tous concernés parce que quelque chose qui touche notre cœur, justement, c'est cette souffrance. Soit notre propre souffrance ou celle des autres. Et personne n'a envie de souffrir. Et si on a la conscience d'un ami, d'un proche ou quelqu'un d'autre qui souffre, ça nous touche. C'est normal, parce que nous sommes un. Et comme personne, aucun être, c'est impossible qu'un être désire souffrir, ça n'a pas de sens. On a envie d'être heureux, c'est la moindre des choses. Donc il y a quelque chose en nous qui nous titille, quelque chose en nous qui dit ça va pas. La souffrance, c'est pas admissible, ça ne va pas. Alors on va dire, mais évidemment, pour accéder au réveil, puisqu'on est amour et qu'on n'est rien, tout amour, donc nous sommes invités à tout accueillir, y compris la souffrance. C'est juste. Et pourtant la souffrance n'a pas de sens. Donc vous voyez, là on commence à toucher de très près le paradoxe apparent entre quelque chose que nous savons vrai, c'est-à-dire tout est bonheur, joie, infini, tout est plénitude, personne n'a envie de souffrir, et puis en même temps, si je regarde autour de moi, en moi et autour de moi, qu'est-ce que je vois? De la souffrance. Dans ce monde qui est extrêmement chaotique, qui est un monde où on hurle de douleur quelque part, c'est soigneusement caché pour pas que ça soit trop insupportable, ben, il y a une souffrance, une colère, des frustrations, des désespoirs énormes. C'est en train de changer. Mais ça ne change pas comme ça. Ça vient de quoi? Ça vient de croyances. C'est une croyance, c'est tout. C'est inhérent au jeu de la séparation. C'est inhérent à l'incarnation humaine. C'est pour ça que nous commençons maintenant à avoir l'information que après l'Atlantide, en Atlantide c'était un peu différent. Mais depuis l'Atlantide, ça fait à peu près 10 000 ans, on vit dans la survie. C'est-à-dire que on se réincarne et on recommence et quoi? Je viens de parler de 10 000 ans. Le temps n'existe pas, vous voyez, donc on pourrait dire, mais je sais pas ce que je dis, puisque je parle du temps qui n'existe pas et je parle de 10 000 ans. Donc vous voyez, à chaque fois on touche à un paradoxe où on parle de choses contradictoires. On parle d'amour, on a envie de vivre l'amour, on a un appel fantastique à s'aimer les uns les autres, c'est-à-dire à s'ouvrir, à accueillir, à s'accueillir mutuellement, à s'aimer, à s'étreindre, à s'embrasser, à se regarder dans les yeux et dire « mais vraiment je t'aime et tu m'aimes ». Et puis il y a des peurs. Et voilà, et donc on vit les deux. Et oui, c'est inhérent à ce jeu. Mais ce jeu est très très puissant. On nous parle du Big Bang. On nous dit qu'il y a environ 14 milliards d'années, il y a eu le Big Bang et que l'univers a commencé à s'étendre. Et finalement, les scientifiques ne sont pas d'accord. Ils s'aperçoivent que des endroits de l'univers qui sont plus jeunes que d'autres sont plus éloignés, moins éloignés. C'est-à-dire que ça ne marche pas. Et même la théorie du Big Bang est en train de s'autodétruire. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de Big Bang en réalité. On ne peut pas l'appréhender à une fraction de seconde près. Et là, on touche à quelque chose qui a l'air tout à fait marginal, mais c'est pas du tout marginal. Ça nous montre bien que ce n'est qu'une des croyances. Mais c'est tellement bien fait que ça semble réel. Et donc les scientifiques étudient, mesurent, calculent. On mesure l'érosion sur les roches. On mesure le passage du temps apparent, d'un temps linéaire, sur des années, des siècles, des millénaires, des ères glaciaires, etc. Des millions d'années, des milliards d'années. Une étoile dure 5 milliards d'années. Mais tout est imaginé. Et pourtant, ça semble pas du tout imaginé. Alors nous voici face à ça. Les physiciens quantiques disent le temps n'existe pas, mais ils sont hommes ou femmes, ils ont leur vie comme nous. Et finalement, la science même leur montre que le temps n'existe pas, mais leur croyance au temps reste. C'est clair. Nous sommes encore un très petit nombre à vraiment quitter ces croyances. Et ça se fait doucement. Et ça se fait comment? Ça ne peut se faire que d'une façon. Ça peut se faire que par ce qui est réel. Et ce qui est réel, c'est nous, c'est ce qui dit « je », mais le vrai « je », c'est l'un, c'est le tout. C'est l'amour, c'est-à-dire la présence, la vie. C'est pour ça que dans les textes sacrés, on nous parle de révélation. C'est pas le mental, c'est pas les croyances qui vont s'en sortir. C'est pour ça que dans le courant miracle, Jésus nous dit « De l'intérieur du système de pensée dans lequel vous êtes imaginé être, c'est tellement bien fait que vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous avez besoin de quelque chose d'extérieur, de quelqu'un d'extérieur. » En réalité, il n'y a personne d'extérieur puisqu'il n'y a pas d'extérieur. Mais il semble y avoir un extérieur. C'est pour ça que temporairement, nous pratiquons des demandes d'aide, nous pratiquons des silences, des méditations. On pose des armes, on attend. On choisit quoi? On choisit la confiance. On choisit le non-jugement. Par exemple, une des leçons du cours dit « Je pourrais choisir la paix au lieu de cela. » Donc, peu à peu, on s'aperçoit que, justement, la culpabilité, la peur, la souffrance, tout ça nous pousse à autre chose. Le grand éclat de rire, c'est que cette autre chose, peu à peu, nous découvrons que c'est la réalité que nous sommes, qui est amour. C'est pour ça qu'on parle d'état amoureux. Et alors, ça devient... Au début, vous voyez, au départ, ça semble très théorique, ça semble déconnecter notre réalité humaine quotidienne. Et peu à peu, on commence à comprendre que ce n'est pas du tout déconnecté, au contraire. C'est la clé que tout le monde cherche. Et cette clé, c'est qui nous sommes. Donc tout le monde a la clé, les 7 milliards que nous sommes. Chacun a la clé en lui-même. Et ça a toujours été le message de tous les grands maîtres. Et là, on touche à, en particulier au pardon dont parle le courant miracle. Le pardon, c'est de voir qu'il n'y a rien à pardonner, c'est que tout le monde est sauvé. Mais c'est une question de vision. Alors, on va dire effectivement, bon, c'est très bien, Sylvain. D'accord, peut-être toi, peut-être, ou d'autres, une minorité, peut-être vous avez cette vision, peut-être. Je dis pas que je l'ai, hein, mais je dis, supposons qu'on me dise ça. Mais ça vous concerne parce que qu'est-ce que c'est que cette vision? C'est la vision que chacun est déjà ce qu'il semble chercher. Chacun ne peut pas être séparé, chacun est le vivant, la vie. Dieu est tout ce qui est, donc chacun est cela. C'est ce que Jésus ou Yeshua, disait il y a 2000 ans, et ce qu'il continue à dire, ainsi que tous les grands maîtres. On ne peut pas ne pas être qui nous sommes. Dieu est tout ce qui est. Nous ne serions pas là ici autour de cette table chez Avi à parler de ça s'il y avait le moindre danger, si la mort existait. Il n'y aurait rien. Et quelles que soient les croyances, on ne peut pas nier qu'il y a quelque chose. Ok, c'est peut-être une illusion, c'est peut-être un rêve. Non, parce qu'il y a rêve. Et ce rêve vient de quoi? De la réalité. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ça? On n'en fait rien, on l'observe. On le laisse être. C'est le let it be, que laisse-le être, que cela soit. C'est le ainsi soit-il. C'est aussi le namasté des Indiens, c'est-à-dire je reconnais qui tu es. Et cette reconnaissance de qui est l'autre et de qui nous sommes, c'est le seul cadeau, c'est le seul don d'amour qu'on puisse se faire les uns les autres. Si je veux changer l'autre pour l'améliorer, je perds le message. La seule attitude, c'est une attitude amoureuse d'accueillir la réalité de l'autre. Et par la même occasion, évidemment, ma propre réalité. On va dire, oui, mais tout ça, ça paraît théorique. Oui, effectivement, ça paraît théorique quand on l'exprime par des mots. Mais il y a l'expression et puis il y a la pratique. Et la pratique, c'est dans l'instant. Et comme dit le courant miracle, on peut toujours rechoisir dans l'instant. Parce qu'on est toujours dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, je peux toujours dire, comme dit le cours, frère, rechoisis. Tu peux rechoisir. Et rechoisir quoi? L'amour ou la peur? La non-séparation ou la séparation? La vérité ou l'illusion? Ce qui est réel et non menacé ou ce qui est irréel? Mais ce qui est réel, irréel n'a aucun pouvoir. Comment ça n'a aucun pouvoir? Comment me regarder? Cette planète qui vacille, qui va très mal, parce qu'il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de... Les hommes, les êtres humains s'auto-aliènent, se rendent prisonniers les uns les autres, s'exploitent, se martyrisent, se torturent, etc. En apparence, oui. Et le cours va nous dire, personne n'a de pouvoir sur toi à cause de qui tu es. Le cours va nous dire, prends garde, je cite, prends garde à la tentation de te percevoir injustement traité. Prends garde à la tentation de te percevoir injustement traité. Et si le cours dit ça, c'est qu'il y a vraiment la tentation. Et la tentation, elle est partout. Parce que l'illusion est très très bien faite. Donc effectivement, la séparation semble absolument réelle. On semble menacé, on semble avoir des problèmes, on semble être en danger. On a envie de sauver les autres, de les protéger. C'est comme ça qu'on fait des clubs, c'est comme ça qu'on fait des armées, des frontières, des nouvelles lois, des droits de douane, des lois, des droits et des devoirs. On fait des codes civils et c'est l'enfer. On fait des cours de justice qui sont des cours humaines. L'état de conscience actuel ne permet pas de tout enlever. Ça va continuer comme ça pendant un certain temps. Mais peu à peu, le nouveau monde, justement, c'est que ça va se désagréger. Et que la non-loi va être promue, va s'avancer. Qu'est-ce que c'est que la non-loi? C'est la loi de l'amour. Et la loi de l'amour, c'est un accueil infini. Et ça se passe quand? Ça se passe où? Pas dans les gouvernements, pas dans l'administration. Ça se passe dans chaque individu. Mon seul travail, j'adore le répéter, mon seul travail, c'est de travailler sur moi-même. C'est pas de parler ici comme je suis en train de le faire chez Avi. Mon seul travail, c'est de pratiquer, c'est vrai, ces mots qui me passionnent, cette non-dualité que j'ai dans le cœur, d'accord? Mon seul travail, c'est de pratiquer, c'est-à-dire d'aimer, d'accueillir, d'accueillir tous mes frères et sœurs, d'accueillir leur expérience comme la mienne. Et donc à ce moment-là, je ne cherche plus à changer quiconque. Parce que pourquoi c'est si important? Parce que si je veux changer quelqu'un, c'est que je le veux autre. Et le cours nous dit, attaquer, c'est vouloir autre. Et l'attaque, c'est une création, c'est une fabrication. C'est-à-dire, je diminue. Au lieu de donner à l'autre la plénitude de ce qu'il est, sa nature divine, je restreins en disant, il manque de quelque chose. Il devrait croire à ceci ou cela. Alors on va dire, mais ce que tu es en train de dire, tu as envie que les autres y adhèrent. Je dis, non, pas du tout. Pas du tout. Je suis en train de dire que l'autre, tout autre, est déjà la plénitude divine éternellement. Comme dit le Coran Miracle, je suis tel que Dieu m'a créé. Et Dieu n'a pas changé d'avis à mon égard. Dieu se réjouit à l'infini de tous ses enfants, quelles que soient les apparences. Je parle des 7 milliards que nous sommes ici. C'est ça dont nous parlons, c'est ça qui commence à nous parler au cœur, et c'est ça que nous sommes appelés à pratiquer les uns les autres, dans un quotidien qui semble bourré de problèmes, de défis, de menaces. Très souvent, pas toujours bien sûr, évidemment. Mais peu à peu, nous apprenons à rire. Comme disait tout à l'heure Avi, évidemment, tout a commencé quand le Fils, c'est-à-dire l'expression du Père, la manifestation du Père, le Fils que nous sommes, tout a commencé quand le Fils a oublié de rire à la pensée de séparation. Une bonne blague, c'est impossible. La vie est éternelle, nous sommes cela. Souvent, on a l'impression que ça reste théorique. C'est vrai. Mais le simple fait de dire « Mais je suis là maintenant, dans cet instant présent. Je respire. Je sens peut-être avoir des problèmes ou avoir des difficultés, mais je respire. Je peux rechoisir. » Et c'est la pratique régulière de ce choix qui montre que ce dont nous parlons a des effets réels. Et là, on commence à comprendre que le livre dont nous parlons, Un cours en miracle, eh bien, ce titre un peu bizarre au début, ça fait bizarre, Un cours en miracle, mais commence à prendre un sens. Parce que nous commençons à voir des miracles. Et nous commençons à les attendre, au sens de, en anglais, c'est « to expect a miracle ». S'attendre à des miracles. Et comme dit au début dans les 50 principes du miracle, comme dit le livre, les miracles se produisent naturellement, quand ils ne se produisent pas, quelque chose a été faussé. Ça se produit naturellement par l'amour. Et quand il y a manque d'amour, il y a apparemment cessation de miracle. C'est tout. Nous, nous sommes en apprentissage de miracles, de faiseurs de miracles. Évidemment, ça s'apprend tout seul. On laisse l'amour faire les miracles à travers nous, c'est tout. C'est pour ça que le premier principe de ceux qui font des miracles, comme dit le cours, c'est qu'ils n'en font pas. Ils laissent les miracles se faire à travers eux. On va dire, mais Jésus, il y a 2000 ans, il y a eu beaucoup de miracles. Oui, c'est vrai, mais il laissait se faire. Il rencontrait les aveugles, certains étaient guéris, d'autres pas d'ailleurs. Il y avait certaines fois où il n'y avait pas de guérison apparente. C'est pas dit dans les Écritures, mais pourtant, c'est tout à fait ce que maintenant les nouvelles canonisations nous donnent. Et ça a beaucoup de sens, parce qu'en fait, et ça c'est dit dans les Évangiles, Jésus disait « ta foi t'a sauvé ». Ça veut dire que si ton âme profonde choisit une expérience de rester dans une maladie apparente du corps, eh bien, cette maladie reste apparemment. C'est tout. Si tu choisis de rester dans telle ou telle situation, ça reste. Donc c'est pas évident de voir ça, ça peut faire très peur. Et c'est pour ça que, dans le cours en miracle, on nous parle de cette voix, cette petite voix qui est toujours là. La voix de l'ego parle la première, c'est le principe de l'incarnation, c'est normal. C'est elle qui parle la plus forte. Mais derrière, il y a cette petite voix qui dit toujours « tout va bien ». Tout va bien, je suis là parce que je suis toi. Et rien ne peut aller contre toi. Le danger n'existe pas, c'est tout imaginé. dans ton esprit séparé. C'est impossible qu'il soit séparé, mais tu t'imagines que ton esprit est séparé, qu'il est fractionné. Ce qu'en anglais on appelle dans le cours « split mind », un esprit fractionné. Une partie qui croit à la séparation, une partie qui ne croit pas. Évidemment, pour avoir l'expérience humaine, il faut y croire, quelque part. C'est un jeu, c'est tout. C'est un jeu dont on sort par l'amour, en jouant l'amour. Comment est-ce qu'on joue l'amour? Quand on monte sur scène et qu'on joue un rôle, ben on exprime le rôle à fond. Et c'est ce que nous sommes amenés à faire ici, dans cette incarnation, c'est à jouer le rôle de l'amour à fond. Mais à fond, sans aucune concession. Il n'y a pas de « oui, mais ». Il y a l'amour et tout ce qui est, c'est tout. Et tout à l'heure, la vie nous rappelait la fin de la courte introduction du cours en miracle qui dit « Ce cours peut très simplement se résumer de la manière suivante. Rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. En cela réside la paix de Dieu. » Nous sommes vraiment invités à pratiquer. Ça ne concerne que nous, ça ne concerne pas les autres. Que vous soyez en relation intime, que vous ayez des enfants, n'importe quoi, job, pas job, ça ne concerne que vous exactement, ça ne concerne que nous, moi aussi bien sûr, exactement dans l'instant présent, toujours dans l'instant présent. C'est une question de choix. Et le choix, il est toujours possible, à tout instant. Et d'ailleurs le cours va plus loin en disant qu'on choisit toujours. Mais on ne choisit pas seul. On choisit soit avec la pensée d'ego, c'est-à-dire la séparation réelle, et c'est inhérent à cette incarnation, soit avec une nouvelle pensée qui est non, c'est pas réel. Je choisis l'amour, je choisis l'unité de toutes choses, je choisis qui sont vraiment tous mes frères et sœurs. Et ça, ça change tout. Ça change tout. Je voudrais revenir sur la notion de temps parce que, comme on croit au temps, on a l'impression que le passé nous grève. Et que finalement, on dit « Ah ben c'est bien ça, oui effectivement, je sens, mais au fond j'ai gâché tout. J'ai fait des choses atroces quand j'étais plus jeune, j'ai tout gâché, j'ai gaspillé, j'ai fait du mal aux autres, j'ai raté des relations, etc. » J'ai choisi, nous avons choisi, une expérience de séparation qui automatiquement implique l'attaque et la défense. Si j'attaque quelqu'un, je suis son bourreau. Mais je suis créateur, parce que nous sommes créateurs, donc nous avons choisi ce jeu de la séparation. Et dans ce jeu, eh bien, il y a bourreau et victime. Et nous jouons tour à tour le rôle du bourreau et le rôle de victime. Les deux. et nous l'avons joué, mais finalement tout ça s'est imaginé, parce que le temps n'existe pas. Mais comment ça se fait que ça soit, qu'on parle de milliards d'années, qu'on nous dit que le temps n'existe pas, et puis finalement qu'on voit des conséquences, que ça paraît absolument gigantesque. Pourquoi, comment ça a pu se faire ça? À cause de notre puissance d'imagination. À cause de notre puissance, nous pouvons vraiment imaginer ce monde duel, cet univers duel, d'une manière fantastique. Et donc cet univers qui nous semble réel, nous commençons à comprendre qu'il a deux buts. Le but initial où il est fabriqué par l'imagination que la séparation réelle, très bien, mais on l'imagine avec la puissance divine que nous sommes, dont ça donne tout l'univers entier gigantesque qu'on peut percevoir, étudier, on fait des calculs, on étudie ses lois, c'est fantastique. Regardez la nature, c'est assez extraordinaire. Il y a un côté d'ailleurs magnifique, une beauté invraisemblable, incroyable. Et pourtant, c'est pour donner l'illusion de la séparation. Ça, c'est le premier but. Le deuxième but, c'est un but de réveil. C'est le but de l'esprit. Donc l'esprit se sert de cette illusion de séparation, se sert de toutes les émotions, se sert de nos croyances, pour nous faire remonter des émotions, des croyances, que peu à peu ça s'en aille. Mais c'est l'esprit qui fait ça, c'est pas nous, à cause de notre croyance au petit personnage que nous croyons être. C'est pour ça que ce fameux lâcher prise dont on parle tant devient fondamental. Alors c'est pas facile, parce que l'illusion est très bien faite. Donc ça fait monter des peurs. On peut même se demander, à des moments on dit, mais on s'en sortira jamais, parce que c'est tellement invraisemblable, on est tellement noyé dans nos croyances, dans nos fausses croyances, on a l'impression d'avoir tout gâché, d'être perdu. D'ailleurs, il y en a qui se suicident, il y en a qui partent en désespoir, qui tombent dans des déprimes formidables. On comprend. Et pourtant, il n'y a aucun souci à se faire. C'est pas évident de dire ça. C'est pas évident. Alors, on se dit, mais les autres, oui, mais c'est pas une question des autres, c'est une question de moi. Et le cours est très spécifique à ce sujet en disant, combien il en faut pour sauver le monde, un seul suffit. C'est vrai que c'est quelque chose que je répète souvent, mais c'est quelque chose que je pratique. J'ai pas le choix d'ailleurs. Ça m'habite, ça revient tout le temps. Dans le sens, genre, ben, qui sait, si c'est pas moi, ça sera qui? Et si c'est pas vous, ça sera qui? Parce que c'est à ce niveau-là que ça se passe, c'est au niveau individuel. C'est très important, c'est au niveau individuel. L'inconscient collectif, c'est une somme d'inconscient individuel. Et vous êtes toujours face, ce que je disais tout à l'heure, vous êtes toujours face à votre propre individu, à l'individu que vous croyez être. Et c'est au niveau de cet individu que ça se passe. Et ça n'a rien à voir avec votre compte bancaire, vos relations, le fait que vous soyez connu, pas connu, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec votre état d'esprit, avec notre état d'esprit, avec notre cœur. Est-ce que nous décidons de le laisser s'ouvrir, ou est-ce que nous continuons à le laisser fermer ou le refermer par peur? Donc cette notion de temps, cette notion de monde, l'esprit s'en occupe. Et l'esprit s'occupe de tout. Et je vais reciter une fois de plus, j'adore cette phrase qui est à la leçon 135 du cours. Que ne pourrais-tu accepter? Si seulement tu savais que tout ce qui arrive, tout événement, passé, présent et futur, est planifié avec amour et bienveillance par l'un, par l'esprit un, dont le seul but est ton bien, et le bien de tous, évidemment. Que ne pourrais-tu accepter si tu savais que tout est pris en charge? C'était ce dont parlait Jésus il y a 2000 ans en parlant de l'esprit à l'œuvre dans le monde. Le Saint-Esprit. Et quand, après la crucifixion, il a dit à ses apôtres ont reçu comme instruction, vous restez ensemble et l'Esprit va venir. C'est l'Esprit de non-dualité. Ils ont reçu les fameuses langues de feu, enfin, c'est raconté comme ça, le jour de la Pentecôte, enfin, c'est un peu romancé, bien sûr, mais il y a eu quelque chose de très très fort. Ce qui n'empêche qu'après, ils avaient toujours leur travail sur eux-mêmes, leur fausse croyance, et qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire avec leur état de conscience de l'époque. Et ils ont fait, comme vous, comme moi, ils ont eu leur rôle parfait, évidemment. Mais il y a eu réception de l'esprit d'amour. Et d'ailleurs, c'est raconté, c'est magnifique, où ils sont sortis dehors, et ils parlaient en langue, ils étaient complètement ouverts, ils étaient sans aucune peur. Ça a changé après, mais ils ont connu sur le moment une expérience extrêmement forte, comme c'est relaté dans les Écritures. Et effectivement, nous avons aussi, chacun d'entre nous, quand c'est l'heure, nous pouvons avoir certaines expériences comme ça, quand c'est l'heure, décidée par l'Esprit. Et ces expériences, elles peuvent être extrêmement courtes, mais très très fortes. Et elles sont indélébiles. Je sais que moi j'en ai eu plusieurs, très courtes. C'est indélébile. C'est là. C'est tellement extraordinaire que ça ne s'en va pas. Et ça aide. Parce qu'ici nous sommes au travail. Nous nous donnons tous la main. Et on est dans un travail de débroussaillage, d'abandon de croyance. Et nous sommes au service les uns des autres. On est bien là, sur cette planète duel. La question, c'est de savoir si je suis là dans l'amour ou dans la peur. Et ça, c'est quelque chose que je pourrais choisir à chaque instant.
Alors, j'ai envie de continuer en parlant du bonheur. Ça paraît évident, mais ça peut être utile de le répéter. Chacun veut être heureux. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans cette pièce, qui ne veut pas être heureux? J'ai déjà posé la question dans les groupes que j'anime. J'ai jamais eu de main qui se lève. Et c'est fabuleux. C'est quand même une constante de chaque être humain. Tout le monde veut être heureux. Et tout d'un coup, là, tout à l'heure, une leçon du cours m'est venue et qui disait « La volonté de Dieu pour toi est le parfait bonheur. » Donc, nous vivons dans un monde où nous avons parfois quitté l'amour. Nous avons expérimenté des choses de haine ou des choses difficiles ou même de tristesse ou d'angoisse. Mais cette volonté d'être heureux ne nous quitte pas. Hein. C'est quand même fabuleux. C'est comme un point central qui dit « Malgré tout ce qui m'arrive, je veux être heureux ou être heureuse. » Et c'est ça qui me fonde. Hein. C'est ça qui fonde l'évolution dans ma vie, ce désir d'être heureux. C'est comme si c'était la partie que je n'avais pas oubliée de ma partie divine, puisque c'est la volonté profonde de Dieu pour moi. C'est le parfait bonheur, le bonheur sans ombre, sans tache. Le bonheur qui est le reflet du monde divin, du monde d'où je viens, qui est ma nature profonde. Alors justement, il y a une partie du dernier paragraphe d'un courant miracle qui est très très belle et qui dit simplement: les épreuves ne sont que des leçons que tu as manqué d'apprendre et qui te sont présentées à nouveau, de sorte que là où tu avais fait le mauvais choix auparavant, tu peux maintenant en faire un meilleur, échappant ainsi de toute la douleur que t'avais apporté ce que tu as choisi auparavant. Voilà, alors... C'est comme si la vie humaine était une école et que les expériences que je vis sont une classe à laquelle j'assiste. Et lorsque je n'ai pas appris cette leçon, retenu cette leçon, alors je redouble. Hein. La leçon m'est présentée à nouveau jusqu'à ce que je fasse le bon choix. En fait, c'est pas bon en termes de bien et mal. Hein. C'est en vérité le seul choix réel, le seul choix possible. Et le seul choix, c'est le choix de l'amour. Donc, nos expériences de vie, en vérité, elles sont neutres. Elles sont toujours des occasions de choisir et de rechoisir et de rechoisir jusqu'à ce que je fasse le seul choix possible, qui reflète ma vraie nature, c'est-à-dire le choix de l'amour. C'est quoi le choix de l'amour? Ça peut être par exemple, c'est pas un petit exemple que je donne, hein, renoncer consciemment au jugement. Et des jugements, dans un esprit non entraîné, il y en a des centaines et des milliers, tous les jours, tous les jours. Ça me plaît pas, pourquoi il a dit ça, pourquoi elle a fait ça, elle aurait pas dû, je déteste, j'adore, hein. Je donne de la valeur, hein, à travers ces jugements-là, je donne de la valeur, c'est bien ou c'est mal. Et donc je conforte la dualité qui dit c'est bien ou c'est mal. Et quand je fais le choix de l'amour, je sors de cette dualité du bien et du mal, et l'amour c'est le bien sans opposé, il n'y a que l'amour. Donc notre vie passe par une série d'épreuves ou une série de leçons dans lesquelles nous choisissons à nouveau et à nouveau. Et lorsque nous choisissons enfin l'amour et rien d'autre, alors la leçon ne se présente plus dans la vie. C'est pour ça qu'on choisit parfois un partenaire ou une partenaire de relation amoureuse. Et puis, si ça ne marche pas, ça s'arrête. Parfois, on choisit une autre personne qui présente exactement les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire qui va nous faire réagir de la même manière, qui va appuyer là où ça fait mal, exactement. Oui, ça résonne. Hein. Qui va nous dire, rappelle-toi, avis, que t'as mal ici. Et guéris ça. Et si tu t'en rappelles pas, et si tu le guéris pas maintenant, avec celle-là, alors une autre viendra pour te le rappeler à nouveau. Jusqu'à ce que tu fasses le choix de l'amour pour finalement satisfaire le désir de parfait bonheur que Dieu a pour toi. C'est ça, en vérité, la non-dualité dans notre vie. Ça peut commencer par pacifier la vie. La pacifier, ça veut dire renoncer au jugement. Le jugement est le symbole même de la dualité dans notre monde. Bien sûr, il n'y a pas que ça. L'autre, mais qui est fortement relié, c'est tous les événements sont issus soit de l'amour, soit de la peur. Il n'y a pas autre chose. Hein. Quand je vis une situation émotionnelle, je peux vivre soit l'amour est quelque chose qui est dérivé, mais c'est l'amour, ou la peur est quelque chose qui est dérivé, mais c'est la peur. Hein. Lorsque je juge, ça part de la peur. Lorsque je suis angoissé, ça part de la peur. Lorsque je m'oppose, lorsque je suis en conflit, ça part de la peur. Lorsque je suis dans la réceptivité, ça part de l'amour. Lorsque je suis dans la bienveillance, ça part de l'amour. Dans la patience, dans l'ouverture, tout ça, ça part de l'amour. Et en vérité, on n'a que deux alternatives. Devant chaque situation qui nécessite une action de notre part, on peut agir à partir de l'amour ou à partir de la peur. Et c'est ça que cette phrase du cours en miracle vient nous rappeler. Les épreuves ne sont que des leçons que tu as manqué d'apprendre et qui te sont présentées à nouveau, de sorte que là où tu avais fait le mauvais choix auparavant, tu peux maintenant en faire un meilleur, échappant ainsi de toute la douleur que t'avais apporté ce que tu as choisi auparavant. Donc, j'ai fait un mauvais choix, c'est pas grave, je sais que ça reviendra et je sais que je pourrai rechoisir. Quand je dis c'est pas grave, ça veut dire que je ne le juge pas, ce choix. Il n'est pas mauvais en termes de dualité. Hein. C'est un choix qui est une erreur de perception. Au lieu de me rappeler de qui est l'autre, et au lieu de me rappeler de qui je suis, alors je suis en train d'opposer deux êtres qui par nature sont amour tous les deux. Donc, quand je me rappelle et quand je fais l'effort de rester centré en moi-même et de me rappeler que je suis amour, alors forcément, je peux voir l'autre avec plus d'amour. Et de quoi j'ai besoin ? J'ai besoin de me détendre. La peur est une tension. La peur est quelque chose qui se crispe. Regardez ce qui se passe quand on médite. On laisse aller les tensions. Et forcément, notre nature, avec un grand N, revient au galop. Notre nature, c'est l'amour. Dans la détente, c'est beaucoup plus facile de sentir l'amour que dans la tension. Alors, la tension, ça peut invoquer toutes les émotions qu'on appelle négatives, qui sont issues d'une seule et même tension qui dit « j'ai peur ». Et en vérité, quand j'ai peur, c'est l'endroit où je m'éloigne de l'amour. C'est simplement une distance par rapport à l'amour. Il n'y a que l'amour et la peur dans notre monde. Dans le monde absolu, il n'y a que l'amour sans opposé. Et regardez ce qui se passe. Ça fait à peu près une heure qu'on est assis dans cette pièce. Manifestement, l'ambiance est de plus en plus détendue. Pourquoi ? Parce que nous n'alimentons pas tout ce qui oppose, tout ce qui nous oppose, tout ce qui nous met en conflit, tout ce qui juge. Il y a manifestement plus d'amour qui est présent parce que nous arrêtons de croire au fait que nous sommes des êtres en opposition les uns aux autres ou en conflit ou adversaires. Mais on est beaucoup plus dans l'attitude de on partage quelque chose comme des frères d'une même famille, des frères et sœurs partagent. Qu'est-ce qui se passe lorsque, en juillet et en août, les gens vont en vacances ? Pourquoi il y a plein de relations amoureuses qui naissent en vacances ? Parce que les gens sont détendus. Parce que dans la détente, il y a une place pour l'amour. Et dans la tension, il n'y a pas de place pour l'amour. Donc c'est très réel tout ça, c'est très concret. Même si la peur, en vérité, elle n'existe pas dans le monde absolu, on a décidé d'en faire l'expérience dans ce monde pour avoir une perspective sur l'amour. Lorsque j'ai bien exploré la peur, je sais à quel point c'est bon de revenir à l'amour. Alors que si je n'ai que l'amour, je n'ai pas de perspective, je n'ai pas de contraste. Donc nous avons inventé un monde de contraste pour avoir le plaisir de revenir à l'amour parce que nous nous en sommes éloignés et à présent ça devient évident et manifeste que nous souhaitons habiter dans l'amour, revenir à cette perception où il n'y a plus l'opposé de l'amour, où il n'y a que la peur. C'est ça dont nous parlons dans ces groupes. Comment faire que dans notre vie, il y ait de moins en moins de place pour la peur et de plus en plus de place pour l'amour. Et parce que aimer, nous savons, c'est notre nature. Personne ne peut dire « je ne sais pas aimer ». C'est exactement comme personne ne peut dire « je ne veux pas être heureux ». Tout le monde sait aimer. Tout le monde sait aimer parce que pour aimer, il n'y a rien à faire. Il y a juste à être ce qu'on est déjà. Il y a à arrêter de voiler cet amour qui est là en nous depuis toujours, je dirais. C'est ce qui nous fonde, c'est ce dont nous sommes constitués. Mais nous le voilons dans des buts d'expérience. Et nous apprenons dans notre vie humaine, et même dans les retours que nous faisons après la mort à d'autres vies humaines, progressivement, nous apprenons à ne plus fonctionner avec la peur, mais à fonctionner avec l'amour. Et la première des choses, c'est renoncer consciemment au jugement. Alors, comment je renonce consciemment au jugement ? Ben, d'abord, je me rends compte que je juge. Si je me rends pas compte que je juge, comment je peux renoncer à quelque chose d'inconscient ? C'est pas possible. Donc, pour transformer un jugement, d'abord, je me dis, ah oui, là, j'ai jugé. Là, j'ai pensé que c'était pas la bonne attitude. Elle s'est pas exprimée ou il s'est pas exprimé comme moi je pense. Et donc c'est pas correct. Et donc j'ai créé une division. J'ai dit il y a elle et il y a moi. Il y a lui et il y a moi. Et lorsque je renonce à ce jugement, parfois ça peut être très difficile hein, de renoncer à un jugement. Parfois je lis un article de journal, et pendant que je lis l'article, il y a trois jugements qui apparaissent. Non, je pense pas comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce journal de trois petits points? J'arrête de lire au milieu, je m'oppose à la personne qui a écrit. Voilà. Au lieu de me rappeler que cet événement en lui-même est neutre, je peux trouver de la réactivité et choisir la peur, ou je peux être dans l'absence de réactivité et puis se rappeler que c'est une expérience comme une autre, hein, qui m'aide à me positionner dans l'amour ou dans la peur. Ça, c'est de la plus haute importance. Lorsque j'ai compris ça, chaque événement de ma vie, je vais pouvoir me dire, « Avi, qu'est-ce que tu choisis ? » Tu choisis d'attaquer ou tu choisis de re-choisir l'autre, de re-choisir qui est l'autre. Et en vérité, l'autre qui m'agresse ou même l'autre qui écrit quelque chose qui ne me plaît pas, il le fait pour me donner ce que j'ai lu tout à l'heure, une épreuve, hein, une leçon que je vais apprendre ou ne pas apprendre. Et donc, c'est quelque chose de neutre. Hein. Donc, quelqu'un, par exemple, d'un parti politique ou émet une idée qui est vraiment très différente des idées que j'ai à l'intérieur de moi, des pensées. Est-ce que je vais dire, il n'a pas le droit de penser ça, il doit penser comme moi? C'est ça le jugement, en vérité. Le jugement, ça veut dire, cela n'aurait pas dû être. Hein, ce que j'entends, ce que je vois, ce que je vis. Je peux aussi me juger moi-même, hein, bien sûr. Et l'absence de jugement, c'est tu es libre de penser ça. Et dans tu es libre, il n'y a pas d'opposition. Même si tu penses que tu veux me tuer, tu es libre. Hein. Alors ça ne veut pas dire que moi je suis d'accord, hein. Je ne cautionne pas. C'est pas la même chose de cautionner et de laisser l'autre libre. Hein. C'est vraiment pas la même chose. Donc, ou si tu penses que je n'ai pas raison, alors, ce que je disais au tout début, est-ce que je choisis d'être heureux ou d'avoir raison? Si je choisis d'avoir raison, je vais m'opposer et m'opposer et m'opposer et argumenter et jusqu'à ce que mon ego soit content et que j'ai le sentiment d'avoir raison. Mais en vérité, il y a quelqu'un qui gagne et l'autre qui perd et on est en pleine division, en pleine dualité. Et l'autre alternative, c'est je n'ai pas le dernier mot et ça n'a aucune importance. Tu penses ça et ça n'a pas d'importance en particulier. Tu as le droit de penser ce que tu penses. Et j'ai remarqué que beaucoup de discussions où quelqu'un essayait de m'entraîner dans l'argumentation se sont terminées lorsque je lui ai dit « C'est ok, tu as le droit de penser ça. Moi je pense autrement, mais tu as le droit de penser ça. Ça n'a pas de... Ça ne me met pas en colère et ça ne me donne pas envie d'argumenter particulièrement. Quelqu'un disait, la meilleure façon d'aider autrui, c'est de lui donner l'image d'une personne, l'exemple d'une personne rayonnante. À part ça, il n'y a pas de moyen d'aider vraiment l'autre. Hein. Si je rayonne le bonheur, si je rayonne la liberté, cela est suffisant en soi, parce que tout le monde veut être libre, comme tout le monde veut être heureux. Donc, l'exemple suffit. C'est pour ça que les personnes charismatiques, Jésus, voilà, toutes les personnes qui sont passées sur Terre, qui ont attiré plein de monde, elles l'ont attiré sans prosélytisme, elles l'ont attiré parce qu'elles étaient vraiment elles-mêmes. Elles étaient heureuses et libres. Et liberté et bonheur et amour sont vraiment étroitement liés. Donc, n'enseigne que l'amour parce que c'est ce que tu es vraiment. C'est une phrase du cours en miracle. J'ai rien d'autre à faire qu'être moi-même pour changer l'autre. Et j'ai pas besoin de vouloir changer l'autre. Je suis moi-même naturellement. Et je sais être moi-même. Parce que c'est ma nature. Hein. J'ai pas besoin de faire d'efforts. Il y a besoin de faire des efforts pour s'empêcher d'aimer, mais pas pour aimer. Parce que aimer, c'est très simple. Mais faire la grimace, ça mobilise beaucoup plus de muscles dans le visage que faire un sourire. Hein. Un sourire est plutôt détendu, une grimace est plutôt contractée. Voilà, alors, passer progressivement d'une vision du monde avec conflit à une vision du monde sans conflit, ça veut dire que c'est simplement de moi que je m'occupe. Je m'occupe jamais de ce qu'il a dit, de ce qu'elle a fait, jamais. C'est comment je l'entends et comment je le perçois. Est-ce que je me dis, bah tu penses ça, d'accord, ok. On peut être amis et avoir des façons de penser différentes. Ou est-ce que je dis, il faut absolument que tu changes et que tu penses comme moi. Hein. Et là, je me maintiens dans quelque chose de difficile. Donc, ça paraît simple, mais ça nécessite tout un état où je deviens conscient de ce que je pense, à tout moment. Et est-ce que j'ai une pensée qui est détendue, ou est-ce que j'ai une pensée qui veut changer l'autre, ou qui veut changer la situation, et qui est tendue, qui est contractée, qui est le reflet de la peur, hein. La peur n'a rien de mal. Simplement, la peur ne nous rend pas heureux, c'est tout. Et donc, on choisit ce qui nous rend heureux, on choisit l'amour. Parfois, on va réagir inconsciemment avec la peur, inconsciemment avec le jugement. Et lorsque je ramène de la conscience sur ce que je choisis, c'est cet endroit même où je peux choisir autre chose. Je peux dire, tiens, là, je choisis ça, ça m'a fait entrer dans un cycle de colère, et de désir de revanche pas croyable, et en fait je me suis moi-même créé quelque chose de très désagréable à l'intérieur de moi. J'ai beau utiliser ce qu'a dit l'autre pour réagir comme ça, mais en vérité j'ai choisi un état d'agitation, hein, et j'aurais pu aussi choisir un état de paix. Dans toute situation, je peux choisir un état de paix où je peux choisir un état d'agitation. Mais d'abord, que j'en sois conscient. Tiens, j'ai choisi, tiens, je sens qu'il y a un peu de colère qui arrive. Je me sens les petits frémissements. Ça commence à... il y a des petits rugissements à l'intérieur. Alors, est-ce que je laisse l'énergie se développer dans la colère et dans l'agression, ou est-ce que je me dis... c'est pas ça qui me rend heureux, bon, j'arrête ça maintenant, et je rechoisis. Et je rechoisis qui est l'autre. Et l'autre me propose toujours une expérience, est-ce que tu vas rester neutre ou est-ce que tu vas attaquer? Est-ce que tu vas aimer ou est-ce que tu vas avoir peur? Et c'est, en vérité, à chaque fois que je suis conscient, je peux rechoisir. J'ai cette question en moi, qu'est-ce que tu choisis maintenant? Et le bonheur intérieur, il se construit par des états de paix successifs, qui sont des choix successifs sur toutes mes opportunités de choisir dans ma vie. En vérité, j'ai toujours le choix. Hein. J'ai toujours le choix de choisir la peur ou de choisir l'amour. Mais d'abord, je dois être conscient que j'ai le choix. Parfois, je vais dire « je suis victime ». Mais en vérité, l'état de victime aussi est un choix. Et ça nécessite de vraiment m'interroger sur comment je vois l'autre. Est-ce que je le vois comme quelqu'un qui a le pouvoir de me rendre malheureux, ou est-ce que j'ai le pouvoir d'être heureux et de laisser ça passer comme un nuage passe, hein, ce que je considère comme étant quelque chose de difficile pour moi. Alors, il y a un autre passage avant de m'arrêter, parce que j'ai l'impression d'être interminable. Ah, il y a un autre passage qui me parle beaucoup, et on parle beaucoup de guidance dans les enseignements non-duels. On parle beaucoup de se laisser inspirer. On parle beaucoup d'entendre l'autre voix. L'autre voix, c'est la voix de l'amour. C'est la voix de l'esprit juste en nous, qu'on appelle, dans le cours en miracle, le Saint-Esprit. Saint veut dire simplement vrai, veut dire la partie de nous non altérée par la croyance à la séparation, par la pensée de séparation. Et donc, cette autre voie, c'est celle qui existe tout le temps pour nous dire qu'il y a une façon de choisir l'amour. Hein. Mais d'abord, je dois l'entendre, hein. Je dois lui donner, lui faire de la place à l'intérieur. Si je suis sans arrêt habité par des pensées d'attaque, il n'y a pas de place pour l'autre voie. C'est-à-dire, j'ai besoin de me détendre, hein. J'ai besoin de faire un espace qui est vide, pour qu'il puisse accueillir l'autre voie. Si je suis toujours en train de dégrainer des pensées de peur, bien sûr, l'autre voie va attendre patiemment qu'un espace se vide pour se déverser dedans. Elle est toujours là, l'autre voie. Et chacun l'a, hein, mais simplement, elle se manifeste lorsque nous manifestons notre réceptivité à cette autre voie. C'est ce que j'ai dit au début, lorsque j'ai dit « Je ne suis ici que pour aider véritablement, je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Hein, et je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire ou ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. » Donc, celui qui m'a envoyé, c'est l'esprit juste, c'est l'esprit en moi qui n'a pas quitté l'unité, qui est toujours présent dans l'amour, et qui me guide quand je dis « Ok, guide-moi ». Mais je dois dire « Ok, guide-moi ». Pourquoi ? Parce que j'ai un libre arbitre. Je suis venu ici par choix, et tant que je choisis de continuer à expérimenter la peur et le non-amour, alors l'autre voie reste tranquille jusqu'à ce que je choisisse d'appeler l'autre voie. Donc c'est de la plus haute importance de se rendre disponible par choix à l'autre voie, hein, à cette guidance intérieure. Et donc, c'est pas quelque chose qui est dans les livres, c'est pas quelque chose qu'il faut apprendre, c'est juste un état de réceptivité que chacun a lorsque nous faisons, par exemple, silence, hein, jusqu'à ce que la réponse à une question que je me pose depuis très longtemps puisse enfin m'être insufflée, hein, comme le souffle divin. Et donc, il y a un passage très spécifique d'un cours en miracle qui est très beau également, que je vais vous lire. Hein, c'est juste quelques lignes. Comment entendre l'autre voix ? Ça, c'est pas l'autre voix, c'est le chat qui gratte à la porte de la salle de bain. Parce qu'il faut laisser ouvert là-haut. Ouais, il faut laisser ouvert. Sinon, elle fait entendre sa voix. Fais simplement ceci. Sois calme et mets de côté toute pensée de ce que tu es et de ce qu'est Dieu. Tous les concepts que tu as appris au sujet du monde, toutes les images que tu as de toi-même, vide ton esprit de tout ce qu'il pense être vrai ou faux, ou bien ou mal, de toute pensée qu'il juge digne et de toutes les idées dont il a honte. Ne t'accroche à rien. N'apporte avec toi aucune pensée que le passé t'a enseignée, ni aucune croyance que tu as jamais apprise auparavant de quoi que ce soit. Oublie ce monde, oublie ce cours et viens les mains entièrement vides à ton Dieu. Voilà, ça veut dire que nous ne donnons plus l'importance que nous donnons habituellement au mental, avec les croyances, avec les pensées, avec les choses apprises, et que nous nous fabriquons un état, ou nous revenons plutôt à un état de complète réceptivité. Alors ça peut prendre du temps, hein, parce que l'ego ne veut pas être silencieux. L'ego est celui qui parle fort, qui nous enseigne des choses de division. Et donc, ça peut être très progressif, hein, de trouver cet état où le calme est là et il y a une absence de croyance, où il y a une absence aussi de ce que j'ai appris, hein, comme un déconditionnement, hein, de ce monde. Et dans cet état complètement vide, vierge de croyance, alors ma vraie nature peut se révéler à moi un petit peu plus facilement. Voilà, donc ce passage-là, je peux vous l'envoyer si vous inspire, hein, demandez-le-moi par email. Sinon, il se retrouve dans un cours en miracle. Et j'aime bien la dernière partie qui dit simplement « Oublie ce monde, oublie ce cours et viens les mains entièrement vides à ton Dieu. » Ça parle d'humilité, ça veut dire « De moi-même, je ne sais rien. » C'est-à-dire, je crois savoir des tas de choses, mais c'est souvent mental. Et lorsque j'accepte de dire que, pour l'essentiel, je l'ai oublié, je ne sais pas, alors, ce qui est vrai peut arriver, hein, pour m'enseigner à nouveau le chemin de mon retour à moi-même. Merci, c'était délicieux de vous parler.
Merci, c'était délicieux de vous parler, et je vais reprendre cette phrase, parce que c'est quelque chose qui commence à nous parler de plus en plus, et c'est quelque chose que nous commençons à expérimenter de plus en plus. Et le fait d'en parler, de le partager, s'aide à ce phénomène, à cette expérience, s'aide à ce qu'il s'étende, se multiplie. Et Avi vient de dire, il l'a ressenti, c'était délicieux de vous parler. Et effectivement, nous sommes invités, vous comme moi, tous sans aucune exception, à nous ouvrir à de plus en plus jouir, apprécier l'expérience qui vient par une ouverture de cœur. Et c'est beaucoup plus fréquent, c'est beaucoup plus puissant qu'avant. Nous arrivons de plus en plus à l'âge d'or. L'âge d'or, c'est pas des choses spectaculaires, c'est pas parce qu'on va avoir des extraterrestres qui vont se manifester dans les vaisseaux spatiaux, c'est même pas parce qu'on va avoir nos déchets nucléaires qui vont être nettoyés, parce qu'on va avoir une eau plus pure, etc., etc., qu'on va avoir des manières de s'auto-gérer qui vont être beaucoup plus agréables, génératrices d'harmonie. C'est pas ça. La joie vient de l'amour. La joie vient du partage, car l'amour est partage. Et qu'est-ce que nous partageons? L'amour. Nous partageons qui nous sommes. Et ce partage utilise le partage, justement. C'est-à-dire le donner-recevoir. Voyez bien, c'est donner-recevoir. Si vous n'êtes pas là à écouter cet enregistrement, à quoi sert l'enregistrement? Et si je suis seul à parler, à quoi servent ceux qui sont là autour de moi? Donc à chaque fois, il y a « merci pour ta présence ». Et vraiment, on commence à le ressentir. Et c'est pas que dans les groupes dits spirituels, c'est pas que dans les rassemblements où on est plutôt, où on parle de non-dualité, de conscience. C'est partout. Et nous faisons les uns les autres de plus en plus d'expériences dans la vie concrète, dans les transports en commun, dans un supermarché, n'importe où, en allant chercher un enfant à l'école, en en étant dans les vendanges, en faisant des vendanges ensemble, ou dans les cultures, dans des entreprises, dans des équipes de travail, ou dans notre famille, ou avec des amis, ou même en balade. On fait de plus en plus l'expérience d'avoir des relations amoureuses. Et la relation amoureuse, c'est pas compliqué. C'est être présent dans l'instant. Et j'aime beaucoup, et indéfiniment, je pense, cette comparaison de la caisse du supermarché, parce que comme on connaît tous ça, et moi j'aime beaucoup les supermarchés, j'aime beaucoup acheter par intuition, chercher ce dont j'ai besoin, pas que pour moi, mais pour ceux qui m'entourent. Et puis, à chaque fois, c'est la petite bataille pour savoir quelle caisse on va prendre, la plus courte, pour attendre le moins possible. Et tout d'un coup, on s'observe, on dit, tiens, j'ai un jugement là. Et finalement, c'est des occasions d'être en état amoureux, d'accueillir le supermarché, d'accueillir ceux qui ont mis les produits dans les rayons, d'accueillir ceux qui ont fait les boîtes, les emballages, d'accueillir tout, les clients qui sont là, le personnel, le caissier ou la caissière, ceux qui font la queue. Et à ce moment-là, il y a détente, il y a écoute, il y a ouverture à l'amour. C'est là que ça se passe. C'est toujours là que ça se passe. Et là, il y a des miracles, il y a des clins d'œil, il y a des dialogues qui se nouent, des gestes qui se font, du rire, de la joie, beaucoup de sourires. C'est là que ça se passe. Donc la spiritualité, la non-dualité dont nous parlons, qui paraît très théorique, on parle d'un cours en miracle, on parle de gros livres. D'accord, c'est bien, ça existe, c'est utile, c'est utilisé par l'esprit. Mais la pratique, c'est dans le quotidien. C'est dans la rue, c'est chez soi, à l'extérieur, partout. Quelle que soit la situation. On raconte souvent, on raconte nos voyages, par exemple. Mais vous avez voyagé vous-même. Quand vous voyagez, vous êtes dans un train, dans un avion. Vous traînez une valise dans un couloir d'aéroport, mais vous êtes là. Que cet aéroport s'appelle Charles de Gaulle Paris, ou s'appelle New Delhi, ou que vous soyez au bord du Jourdain, vous êtes là, c'est vous qui êtes là. L'année dernière, j'étais parti avec Avi, dans un groupe en Israël, une dizaine. On était toujours ensemble, on est là. Alors on se retrouve sur le mont Tabor ou dans la chambre haute, la chambre de la dernière scène, le repas avant la crucifixion, on se retrouve à tel ou tel endroit. Mais c'est toujours nous, on est là. Et là, c'est toujours, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je regarde les murs, je regarde ceux qui ont construit, je regarde, je laisse mes pensées venir, des pensées amoureuses, et je suis toujours là face à moi-même. Face à ceux qui sont là, ou je peux être seul aussi, ça n'a pas d'importance. C'est là que ça se passe. C'est très très concret. Et ça n'a aucune exception. Il n'y a pas de lieu plus spirituel qu'un autre. Bien sûr, il y a des lieux où des énergies sont beaucoup plus fortes. Ça fait partie d'un plan général pour cette planète. Mais tout lieu a son importance, tout lieu est divin. Alors on nous parle ici en France, de Bugarache ou de Sacré-Cœur, Notre-Dame, la Tour Eiffel, de je sais pas quoi, on nous parle du Mont Shasta ailleurs, de Tiruvannamalai en Inde, etc. D'accord, c'est vrai, ça existe. Mais où que vous soyez, où que nous soyons, l'endroit où vous êtes, c'est sacré. Et c'est ça que ça voulait dire dans la Bible quand devant le buisson ardent, Moïse est devant le buisson ardent et l'Esprit lui demande d'enlever ses chaussures parce que le lieu sur lequel il est sacré. Mais en fait, le vrai sens, c'est que c'est lui qui est sacré. Il est le Fils de Dieu. Et donc, par la simple présence de chacun à un endroit précis, le lieu devient sacré, évidemment. C'est une façon de parler parce que... Mais c'est à cause de qui nous sommes. On le voit très bien dans le livre de Crillon, Le Retour, cette grande parabole qui est magnifique dans la dernière maison, la maison d'or, là où justement, où même l'ange ne va pas, Crillon n'y va, personne n'y va, sauf le héros du livre, qui est cet être humain, Michael Thomas, l'intention pure, il arrive dans cette maison et puis là, il va rencontrer un être extraordinaire. Et il est là, et peu à peu, une voix commence, etc. Et puis, il a les yeux fermés, et puis cet être s'avance. Et il ouvre ses yeux, cet être qui est une puissance inimaginable. Et c'est lui. C'est lui-même. Voilà. Voilà le sens de ce symbole, cette parabole, où la dernière maison, la maison d'or, il se rencontre lui-même dans sa divinité, dans qui il est. Et c'est ce que nous sommes appelés à accueillir ici, dans notre expérience humaine, les 7 milliards que nous sommes, avec cette apparence de corps physique, masculin, féminin, de nous accueillir dans qui, dans la divinité que nous sommes. L'esprit d'amour que nous sommes, la vie que nous sommes. Jésus disait, je suis la voie, la vérité, la vie, tout comme vous. Et nous sommes appelés à vraiment dire la même chose. Le dire, c'est une chose, c'est bien. Le dire ou ne pas le dire, ça n'a aucune importance. Mais le vivre et le ressentir, c'est autre chose. Et c'est ça que nous sommes venus faire ensemble ici.
J'aimerais partager avec vous un passage d'un livre que j'ai lu aujourd'hui, il me semble. C'est en rapport avec ce que tu avais dit, Avi, sur le fait qu'à chaque instant, on a l'occasion, en fonction des situations et des personnes qu'on rencontre, le choix de l'amour ou de la peur. Ça fait 3 pages. Lorsque la Seconde Guerre mondiale s'est achevée, en mai 1945, la 123e unité est entrée en Allemagne avec les troupes d'occupation. Je faisais partie d'un groupe assigné à un camp de concentration près de Wuppertal, chargé de trouver de l'aide médicale pour les prisonniers qui venaient d'être libérés. La plupart étaient des Juifs de Hollande, de France et d'Europe de l'Est. C'était l'expérience la plus bouleversante que j'avais jamais eue. J'avais souvent été exposée à la souffrance et à la mort soudaine, mais voir déambuler les effets de lentes privations dans ces baraquements où des milliers d'hommes sont morts à petit feu pendant des années, c'était un nouveau genre d'horreur. Pour beaucoup, le processus était irréversible. Nous en perdions chaque jour en dépit de toutes les médications et de toute la nourriture que nous leur apportions. J'avais vraiment besoin de comprendre. Lorsque la laideur est devenue trop difficile à gérer, j'ai fait ce que j'avais appris à faire. Je suis allée d'un bout à l'autre de cet enclos de fils de barbelés et j'ai regardé dans les visages de ces hommes, jusqu'à ce que j'y voie le visage du Christ qui me regardait. Et c'est comme ça que j'ai connu Wild Bill Cody. Ce n'était pas son vrai nom. Son véritable nom comportait en polonais 7 syllabes imprononçables, mais il avait une grande moustache en guidon de course, comme les photos des vieux héros de western. C'est pour ça que les soldats américains l'ont appelé Wild Bill. C'était l'un des détenus du camp de concentration, mais il était évident qu'il n'était pas là depuis longtemps. Il se tenait droit, ses yeux brillaient, son énergie était inépuisable. Comme il parlait couramment anglais, français, allemand et russe, aussi bien que le polonais, il devint en quelque sorte le traducteur officieux du camp. On venait le voir pour toutes sortes de problèmes. Le travail administratif à lui seul était considérable. Il s'agissait de localiser les gens dont les familles, parfois le village natal, en son entier, pouvaient avoir disparu. Wild Bill travaillait 15 à 16 heures par jour et ne montrait aucun signe de lassitude. Alors que nous tombions de fatigue, il semblait gagner en force. « Nous avons du temps pour ce vieux type, » disait-il. Il a attendu toute la journée pour nous voir. Sa compassion pour ses camarades prisonniers resplendissait sur son visage, et c'est à cette lumière que je venais quand j'avais le moral en baisse. Un jour, nous sommes tombés sur ses papiers, et j'ai été stupéfait d'apprendre qu'il était à 8 Pertal depuis 1939. Depuis 6 ans, il vivait dans les mêmes privations, dormait dans les mêmes baraques étouffantes et infestées de maladies que tous les autres, mais sans la moindre détérioration physique ou mentale. Et peut-être plus étonnant encore, tous les groupes du camp le considéraient comme un ami. Il était celui à qui l'on demandait d'arbitrer les querelles entre les détenus. Ce n'est qu'après avoir passé des semaines à 8 Pertal que j'ai réalisé à quel point c'était rare dans une enceinte où différentes nationalités se haïssaient à peu près autant qu'elles haïssaient les Allemands. Comme pour les Allemands, leur sentiment contre eux était si fort que dans quelques camps libérés plus tôt, les premiers prisonniers s'étaient emparés d'armes, avaient couru au village le plus proche et tirer simplement sur les premiers Allemands qu'ils voyaient. Nous avions pour instruction, entre autres, d'empêcher ce genre de choses. Une fois encore, en raisonnant les différents groupes et en leur conseillant de pardonner, Wild Bill était notre plus grand atout. « Ce n'est pas facile pour eux de pardonner, » lui fis-je remarquer, alors qu'il était assis devant une tasse de thé dans le centre de traitement. Beaucoup d'entre eux ont perdu des membres de leur famille. Wild Bill s'est appuyé contre le dossier de sa chaise et bu une gorgée. Nous vivions dans le quartier juif de Varsovie, commença-t-il doucement. C'était les premiers mots le concernant que je l'ai entendu prononcer. Avec ma femme, nos deux filles et nos 3 petits garçons. Lorsque les Allemands sont arrivés dans notre rue, ils ont aligné tout le monde contre un mur et ils se sont mis à tirer avec leurs mitraillettes. J'ai supplié qu'ils m'accordent de mourir avec ma famille, mais du fait que je parle allemand, ils m'ont mis dans un groupe de travail. Il fit une pause. Peut-être voyait-il sa femme et ses 5 enfants. Il fallait que je décide sur le champ, continua-t-il. Si je me laissais haïr, les soldats qui avaient fait ça. C'était une décision simple, vraiment. J'étais avocat. Dans ma pratique, j'ai pu voir ce que la haine pouvait faire à l'esprit et au corps des gens. La haine avait tué les 6 personnes qui comptaient le plus pour moi dans la vie. J'ai décidé alors que je passerais le reste de ma vie, que ce soit quelques jours ou plusieurs années, à aimer toute personne avec laquelle j'entrerai en contact. C'est le livre Findorn du pardon, inspiré d'un courant miracle.
Merci Katia, d'ailleurs, avec des témoignages comme ça, on a envie de faire silence. Et puis, chacun, il peut venir des pensées, des idées. Et moi, il me vient la présence d'Hiro, de cette femme et des 5 enfants, qui ont changé d'expérience, puisqu'ils ont quitté leur corps, sont très probablement venus s'incarner, mais ont joué un rôle parfait. Cette notion de rôle parfait, c'est fantastique parce que ça a permis justement à cet homme de passer le reste de sa vie à exprimer concrètement un amour incroyable. Et c'est ce qui se passe de plus en plus consciemment parmi nous, c'est ce qu'on appelle les rôles parfaits. Et les rôles parfaits, c'est pas ce que semble voir le mental, c'est pas une question d'être célèbre. C'est simplement ne plus juger être là. Cet homme qui raconte, qui parle de sa décision, on en raconte une histoire. Mais il ne vit pas d'histoire, comme nous ne vivons pas d'histoire, on ne vit que l'instant présent. Donc c'est une occasion pour, à chaque instant présent, d'être dans un esprit d'amour, un esprit d'accueil. Et ce que vient de nous dire Katia, c'est vraiment ça, c'est j'ai décidé d'aimer, d'accueillir tous les êtres avec lesquels je serai en présence. Et dans son expérience, dans le camp de concentration, ça a été aussi avec les nazis. Et puis effectivement, cette notion qui est d'ailleurs un peu nouvelle pour moi, à laquelle j'avais jamais pensé, c'est que les nationalités se haïssaient les unes les autres, dans l'apparence. Mais cet amour, cet accueil, et là on parle de miracle, parce que justement sa stature physique, son rayonnement, son énergie, sa présence, sa lumière, eh bien, c'était carrément miraculeux. Voilà. Et donc, quand on nous dit un cours en miracle, et que quand on choisit l'amour, le pardon, le vrai pardon, c'est-à-dire il n'y a rien à pardonner, je décide d'aimer, d'accueillir tout, et bien là, on observe des miracles. Donc merci pour ce magnifique témoignage, Katia.
Voilà, ça va être l'heure de clore l'enregistrement. Et j'ai envie de le clore avec une phrase avec laquelle, d'habitude, je commence les enregistrements qui m'est revenu. Et c'est tout simplement, Dieu ne connaît qu'un seul mot, et ce mot c'est d'accord. Ça veut dire que Dieu ne s'oppose à rien. Quoique je veuille faire comme expérience, Dieu est d'accord. Parce que l'amour ne peut jamais s'opposer à quoi que ce soit, l'amour accueille tout, et l'amour accorde l'entière liberté à l'autre. Donc, dans ma vie, comme je suis une partie de Dieu, je suis dans cette unité-là, unie à Dieu. Alors je peux révéler ma partie divine bien plus rapidement lorsque j'agis de la même manière. Quoi qu'il se passe, je dis d'accord, c'est-à-dire je l'accueille. Je l'accueille, je ne le cautionne pas, je l'accueille. Ça veut dire, oui, cela s'est passé. Je suis OK avec ce fait. Ce n'est ni bien ni mal, je l'accueille, je le laisse être. Et ceci peut être la clé d'une vie pacifiée, puisque il n'y a plus aucun affrontement, il n'y a plus aucun conflit. Je choisis toujours la paix en disant « D'accord, tu penses ceci, d'accord. Tu as fait cela, d'accord. Tu m'as dit cela, d'accord. Hein. » Voilà. Et ça m'empêche pas de penser ce que je veux, mais d'accord est une phrase d'amour et d'accueil inconditionnel. Et c'est le retour à notre nature divine que d'accueillir l'intégralité de toutes les expériences qui nous sont proposées. Voilà, ça me semblait être une manière de terminer. Tout du moins officiellement, puisque entre nous, pour ceux qui sont ici, nous pourrons continuer à partager librement. Voilà, dans la joie d'un prochain partage qui sera annoncé par email, je vous dis à très bientôt au son de cette cloche.